Les nuits Transculture, la nuit de la lecture, une nuit commencée en compagnie d'Éric Orsenna. Et puis, on a pu entendre aussi, on a pu rencontrer Timothée de Fombelle pour les petits champions de la lecture. Éric Orsenna, vous êtes là encore et en pleine forme. La preuve, c'est que vous avez pu entendre toutes ces nouvelles formidables, nouvelles de Charles Nodier, de Villiers de l'Isle-Adam, de Marcel Aimé, de, voilà, de qui? De Jeanne Chavette, que lisait Michel Galabru.
Mark Twain.
Émilie Brontë, Mark Twain à l'instant. Et puis j'en oublie, mais de toute façon, tout ça est sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture. C'est à podcaster, vous allez faire ça, à télécharger, pardon. Devant un académicien, quand même, oui, je ne peux pas dire podcaster. Donc vous allez télécharger tout
bien
ça,
sûr,
Éric Orsenna, dans
bien
la matinée.
Sûr.
Vous étiez en début de nuit pour nous parler de cette nuit de la lecture, une nuit qui a commencé en dehors de Radio France et de France Culture, puisque dans les librairies de toute la France, et puis même en dehors, dans les Outre-mer, voilà, et bien on a pu.
Qui fait partie de la France.
Voilà, qui fait partie de la France, la France. Et donc, des gens sont venus, comme ça, dans les librairies, ont rencontré des écrivains, des libraires, des éditeurs, peut-être. Et puis, bah voilà, si les gens sont entrés dans les librairies, c'est déjà un public quand même pré-captif. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui aiment lire, ou en tout cas, qui aiment les livres,
alors,
qui aiment les librairies.
Alors, c'est très important ce que vous dites, parce que il y a beaucoup de populations qui disent, les livres, c'est pas pour moi. Et donc cette phrase « c'est pas pour moi », c'est la phrase à tuer, parce que c'est pour tout le monde, justement. Et donc il faut, de toutes les façons possibles, ouvrir, comme les musées. Vous savez, j'ai vu par exemple le patron de Beaubourg, et alors il y a des gens qui viennent à la bibliothèque, à la BPI, à la bibliothèque à Beaubourg, et ils leur donnent des billets de musée gratuits, parce qu'ils viennent pour des revues, mais ils n'auraient jamais eu l'idée d'aller au musée. Le musée, c'est pas pour moi. Et pour moi, une politique culturelle, c'est justement de diminuer le nombre de gens qui disent « ça, c'est pas pour moi ». Tout est pour nous. Tout ce qui est vivant est pour nous.
Tout était pour vous quand vous étiez gamin, Éric Orsenna. Vous vous interdisiez de lire ça?
Non,
vous
par exemple, de lire des... non, par exemple, dans ma famille, on ne s'intéressait pas à la musique. Donc la musique, c'était pas pour moi. Alors, c'était un peu pour mon frère, mais c'était pas pour moi. Et donc, j'ai dû attendre, moi, il y a 3 ans, pour me mettre au piano. J'avais jamais fait d'instrument de musique de ma vie. Pourquoi la musique m'était-elle refusée? Pourquoi? Au nom de quoi? De quelle bêtise? De quelle paresse? Pas du tout. On peut y aller. Toute la vie est pour chacun des vivants. Voilà, c'est tout simple que ça comme morale, quand même.
On parlait donc de vous parler Éric Orsenna, puisque vous avez donc effectué ce tour de France à l'automne dernier. Vous avez rédigé un rapport. Il fait combien de pages?
Le rapport, il fait 50 pages.
50 pages? Ah, bah, c'est court.
Oui, bah, vous savez, si on a des trucs à dire, voilà.
Ce qui s'énonce.
Oui, et puis comme on a eu un peu de temps, donc on a eu le temps d'être court.
Bon. Alors, vous allez le remettre bientôt à la
Absolument.
Ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Et puis, on en saura plus au cours
Bien
des
sûr.
Semaines
et
qui
puis...
viennent. Et il y aura des décisions, j'espère.
Enfin, il y aura toutes sortes de décisions. Et puis, il y a des propositions que nous faisons. Une proposition toute simple. Vous savez, il y a les villages fleuris. Et nous, Noël
avec
Corbin et moi, avec
deux,
trois, des épis, des petites fleurs, etc.
Oui.
Eh bien, on a la même chose en disant, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les villages qui lisent?
C'est-à-dire bon,
avec un livre, deux livres, trois livres. Parce que après, vous savez, quand vous allez dans une ville et dites, tiens, pourquoi c'est la ville à côté, elle est plus fleurie que moi? C'est toujours l'idée du pourquoi pas. Faire un peu honte aux autres. Pourquoi ils ont fait ça? La ville est plus petite, elle est moins riche. Pourquoi est-ce que tu fais pas? Ah bon, ben, t'aimes pas les livres?
Et le comité de fleurissement dans les villages l'été.
Alors, voilà, on va faire le comité de lecture. Voilà, un comité de lecture.
Oui.
On va dire un comité de lecture.
Oui. Alors, je vous disais, en début de nuit, Éric Orsenna, vous avez eu le temps d'y réfléchir en quelques heures. Pourquoi ne pas déposer des livres dans les bistrots qui sont eux ouverts assez tard quand même?
Mais le livre doit pas être associé à une certaine solennité. On lit partout.
Ben oui.
On lit dans les toilettes, on lit dans sa baignoire, on lit en bateau, on lit sur le sable, on lit partout. Alors pourquoi il y aurait des lieux où on n'entre pas, on ne s'habille pas, on ne met pas sa cravate pour lire? On peut lire nu, on peut lire en peignoir, on peut lire en slip, on peut lire comme on veut, on peut lire absolument comme on veut. C'est la lecture, c'est le livre et la prolongation du corps au fond.
Non mais il y a des bureaux de poste qui ferment nombreux villages, il pourrait
oui,
y avoir des...
Alors,
quand
il n'y
a pas de bibliothèque, il peut y avoir
des... Une des propositions que nous avons, c'est de tisser des liens beaucoup plus étroit avec les bureaux de poste. Puisque les deux structures les plus vivantes, les plus présentes sur l'ensemble du territoire, c'est les lieux de livres et les bureaux de poste. Bah, il faut les lier. Pourquoi? Et dans les entreprises. Moi, je vais très souvent maintenant dans les entreprises à l'heure du déjeuner. Alors, ils bouffent leur sandwich et puis ils m'écoutent raconter mes bêtises sur les livres. Il y a plein de gens qui sont là.
Sur la fontaine, vous êtes venu raconter.
Mais bien sûr, oui. Dans toutes des sociétés les plus étonnantes. Il y a des machines à café. Mais enfin, pourquoi il n'y a pas des machines à livres aussi?
Alors donc, vous êtes d'accord pour que les...
Mais plus que d'accord, qu'il y ait des livres dans les hôpitaux, les livres partout, les livres... C'est déjà fait, mais ça pourrait être plus que ça.
Oui, il y a eu ça d'ailleurs hier.
Et puis, il y a ce que j'aime énormément,
c'est... Les lecteurs empêchés.
Les anciennes cabines téléphoniques qui ne servent plus maintenant qu'il y a du portable. Eh bien, dans des tas de villes, on les a gardées et on y a mis des livres. Donc vous pouvez prendre un livre, et puis voilà, vous prenez, et puis vous en mettez un autre. C'est ça, quand je vais dans les classes, je vais dire, hey, « Monsieur, pourquoi tu lis ?» Je lis parce que pour être vivant, donc pour me défendre. Alors quand je fais des championnats, des exercices d'écriture, ce qui marche le mieux, c'est les exercices d'injure. Par exemple, on engueule un maire parce qu'il avait promis un lieu pour des répétitions de musique et puis il n'a pas tenu. Alors on fait des championnats et en général, je gagne. Parce qu'eux, ils disent « Ah, oh, monsieur le maire, t'es un bouffon !» Alors je dis « D'accord, mais on va plus loin quand même. » Comme dans Cyrano, donc on peut quand même dire des choses
un peu plus...
Un peu court, jeune homme. Et donc, on va plus loin. Donc, on fait des championnats comme ça. Il dit, ah oui, t'as raison, mais dis donc, tu gagnes. Et alors, c'est pareil avec les meufs. Bah oui, avec le physique que j'ai, moi, si j'avais pas les mots, bah ouais, ce serait un peu plus dur pour emballer. Et donc, il dit, ah bon, tu fais ça, ça sert aussi. Bah oui, parce que si t'es super beau, ça va, mais au bout d'un moment, si tu dis, je te kiffe, au bout d'un quart d'heure, elle va dire, le mec, d'accord, il est beau, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Alors qu'avec lui, bon, bah, il y a des variations sur le thème de... Voilà. Vous savez, plus ça va, plus... Moi, je suis navigateur, amateur, mais obstiné, et puis un peu relativement audacieux. Et donc, grâce notamment à Isabelle Autissier, qui est d'ailleurs devenue écrivain elle-même aussi maintenant. Et donc, on découvre, on voit ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon.
Vous ne trouvez pas, Éric Orsenna, qu'une des plus grandes tristesses, finalement, c'est de recommander un livre que l'on aime beaucoup à quelqu'un que l'on aime beaucoup, et qui vous rend le livre, ou qui ne vous le rend pas, enfin, qui dit oui, enfin, la déception.
Alors,
de l'autre.
Il y a deux choses. Il y a d'abord que ça dépend des moments, parce qu'un livre, c'est comme la vie, il y a des moments, c'est fait pour ça, c'est pas fait pour ça. Vous savez, il y a des livres, combien de livres on a essayé plusieurs fois.
Et abandonné.
Abandonné, et puis à un moment donné, ça y est. Et puis, il y a ce mystère incroyable, on peut très bien être amis tous les deux, vous être amis avec quelqu'un que moi je déteste. Donc, le triolisme, c'est pas toujours très simple. Même en amitié. Voilà.
D'ailleurs, on n'aime pas spécialement les amis de nos amis, on est jalouse.
Non, voilà. Oui. En plus, il y a des mécanismes de jalousie. Donc, et le livre faut être jaloux aussi. Parce que le livre, il a une identité, il est jaloux.
Ah,
il
aime
trop. Non, mais moi, je l'aime plus que toi, le livre. Non, j'ai mieux compris, je l'aime plus.
C'est quand même terrible, quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas aimé le livre que tu aimes ».
Oui, mais ça veut dire qu'il est vivant, parce que c'est pas mécanique. C'est pas mécanique, donc il y a des jalousies, il n'y a pas des moments, et puis même si on s'aime, on n'est pas semblable. Oui. Donc il y a des livres qui nous ennuient ou qui nous agacent ou qui nous emportent. Mais c'est vrai que c'est une déception terrible. Parce que quel plus beau cadeau que d'offrir un livre, et parce que on sait que le livre va nous agrandir. On sait que il va nous inventer. On est à inventer tout le temps. Vous savez, j'ai 70 ans, je suis sans arrêt inventé par les livres. Je suis en train de lire le livre sur les jeunes filles de Dany Laferrière. C'est une promenade extraordinaire dans son Haïti.
Un camarade d'Académie française.
Un camarade et puis une sorte de cousin, parce qu'il se trouve qu'on le voit pas en dépit de mon physique élancé et sensuel, mais je descends de Cubain. Et donc, il y a une sorte de camaraderie, de cousinage entre nous. C'est merveilleux. Donc il m'invente, parce que il avait juste de l'autre côté de chez lui un endroit où il y avait un peu plus ou moins de bordel. Enfin bon, il y avait des filles de toutes sortes, etc. Il était complètement fasciné. Donc je lui ai dit, c'est moi, alors que j'étais dans une sinistre rue de Vaugirard en face du lycée Buffon, il n'y avait aucune fille, il n'y avait que des mecs, et franchement, je me suis dit, pourquoi j'ai pas eu une enfance à Haïti? Et bien, grâce à lui, j'ai eu.
Est-ce que vous lisiez en cachette? Ou quel genre de livre lisiez-vous en cachette?
Alors, en fausse cachette.
En fausse cachette,
c'est-à-dire que ma mère, qui a tout de suite vu que j'étais fou de lecture, m'interdisait de lire à telle heure. C'est-à-dire, à 9h, il fallait que j'éteigne la lumière. Alors, elle savait évidemment que je m'étais procuré, grâce à ma marraine, une lampe de poche, et je lisais sous les draps. Donc voilà.
Bon, mais pas des livres interdits par la famille.
Toutes sortes de livres. Mon éducation sexuelle, vraiment, c'est l'histoire d'amour, l'histoire de France. Ça, je connais tout des dépravations de toutes les reines, d'Henri IV, de tout. Je suis très très au courant là-dessus. Je vais proposer à la direction de France Culture de raconter l'histoire de France à ma manière.
Et ça commencerait par quelle reine, quel roi?
Ce qui s'est passé avec Henri IV, il était quand même. Et alors c'est formidable, celui qui a retissé le royaume, c'était celui qui était le Béarnais le plus chaud.
Oui, mais enfin, il a changé souvent et de campagne et de religion.
Vous savez, l'avantage, c'est que en lisant les livres, on peut soit se guérir de son infidélité chronique, soit au contraire la nourrir. On ne sait pas.
Est-ce que vous...
On ne sait pas.
Oui. Non, on ne sait pas ça.
On ne sait pas. On ne sait pas qui on est vraiment. Heureusement.
Mais vous, Éric Orsenna, donc quand même, avec alors là, oui. vous êtes l'ambassadeur de la
un ambassadeur. Tellement tout le monde, chaque lecteur est un ambassadeur, parce que comme on l'a dit précédemment, puisqu'on donne des conseils, donc on donne des pourquoi tu n'irais pas, pourquoi tu ne vas pas aimer ça.
Oui, mais on peut être déçu, on le sait. Bon, est-ce que vous arrive de lire je veux dire gratuitement, c'est-à-dire pas pour un livre, voilà.
Alors, vous posez
sans chercher une documentation.
Oui, alors vous posez une question qui est tout à fait pertinente, comme toutes vos questions.
C'est vrai.
Oui, mais celle-ci est particulièrement douloureuse parce que comme je fais des tas de livres de recherche, un livre sur l'eau. Imaginez ce qu'il faut lire pour écrire un livre sur l'eau. Pareil sur le papier, pareil sur ce que je fais sur Pasteur. Donc il faut vraiment, premièrement. Deuxièmement, vous êtes membre de jury. Donc le jury, vous êtes d'une certaine manière, c'est votre mission de lire. Pour récompenser tel ou tel que vous jugez, voilà, avec toutes les possibilités d'erreur. Donc la lecture gratuite, complètement gratuite.
C'est fini.
Et c'est fini, sauf que c'est des conseils. En général. Donc c'est quelqu'un qui me dit tiens tu devrais lire ça. Et puis parfois on relit et puis comme toujours ça donne envie de, vous savez, vous sauter, c'est-à-dire vous allez dans une chose et puis il y en a une autre qui arrive,
comme
et
dans
puis
les
ça
rebondit,
on ricoche, comme dans les dictionnaires. Mmh. Quand on me dit quel livre tu emporterais sur l'île déserte, c'est évidemment le dictionnaire.
L'Académie française ou...
Pas forcément.
Ah, bon, bravo.
Ben oui, mais on est dans le... Voilà, non, mais c'est bien, mais le littré... Alors, je suis obligé de dire que c'est le littré, et je vais m'en tirer en filou, puisque je suis au siège de littré. Vous avez vu comme je suis filou.
C'est très, très filou, tout ça.
Vous savez, j'ai eu une éducation religieuse, et après, François Mitterrand a poursuivi mon éducation.
Oui.
Donc, quand vous avez une éducation religieuse plus François Mitterrand, vous êtes relativement filou.
Mais vous n'étiez pas au même endroit de la rue de Vaugirard
Pas du tout, mais pas loin. Et puis après, à Versailles, et vraiment. Et on voyait en moi une future autorité ecclésiatique.
Oui.
Ce que je ne suis pas.
Mais non, j'ai remarqué. Et les bons pères vous interdisaient certaines lectures, là? Comment ça se passait avec Orsenna?
Oui, mais ils étaient assez malins. Je me souviens d'à Versailles, donc les eudistes, et je vais voir le père supérieur et je lui dis que j'ai perdu la foi en seconde. Et alors très très malin, et écoutez, mon fils, ça reviendra. Donc pour ne pas me peser sur votre conscience, je vous exempte de la messe. Très très fort. En fait, la foi n'est pas revenue, mais il était quand même très très fort. Et donc, alors il me donnait des livres pour essayer de voir, pour guider un peu, pour que je m'éloigne pas trop du troupeau. Enfin, c'est quand même très fort.
Alors, quel genre de livres?
Très fort. Ah bah, des livres sérieux, de Bossuet, de parce que j'étais sérieux comme ça. Renan, alors là, vous
touchez
une histoire. Bah, absolument, ouais. Vous touchez une histoire familiale, puisque toutes nos vacances passions dans l'île de Bréa, où venait Renan. Ma grand-mère, qui était extrêmement bigote, nous interdisait de nous asseoir sur le rocher où venait s'asseoir Renan pour regarder la Manche, pour regarder la mer, comme si ce serait par les fesses que viendrait une sorte d'antéchrisme comme ça qui arriverait de là. Il disait non, il fallait voir ce que c'était que Renan, qui avait dit cette phrase magnifique et terrible. Il disait que Jésus, quel homme admirable. Non, c'est le Fils de Dieu. Et dire simplement ça, c'était, mais il y avait des émeutes avec mort d'homme, avec la police qui protégeait les gens qui posaient la question en historien. Donc c'est des histoires, mais j'avais 10 ans, 12 ans quand on m'a raconté ça. Donc j'avais cette chance invraisemblable, ce que je dois. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est la moindre des choses, l'âge venant, de rendre un minimum ce que vous avez reçu. C'est-à-dire, l'âge, c'est normalement, ça devrait être dire merci.
Vous n'êtes pas allé en vacances à Saint-Malo, enfin sur un autre rocher ou un autre écrivain poser ses fesses
Alors ça, je ne voulais pas faire concurrence à Jean d'Ormesson.
Oui.
Parce que Chateaubriand, c'est lui.
C'était
Renan, moi, c'est un peu plus petit. Donc voilà, c'est là. Mmh. Et donc, mais Renan, c'est prodigieux, prodigieux comme savoir. Et visiter sa maison à Tréguier, c'est passionnant parce qu'on voit ce que c'était que cette enfance et ce monde profondément religieux que j'ai retrouvé après en Amérique latine.
Alors, on a parlé beaucoup de la lecture, on a entendu beaucoup au cours de cette nuit spéciale, nuit de la lecture, donc à l'occasion de cette opération organisée par le ministère de la Culture. On va entendre Françoise Rosay dans Bonne Nouvelle, Grand Comédien, lire Mon ami Valentine et Vie et Mort du Philocactus de Colette. Puis, il sera question de Jean de La Fontaine, une émission de Georges Baume qui a été diffusée en 1948 sur la chaîne nationale, et c'est la compagnie Renaud Barrault qui lisait des passages, enfin des fables de votre ami Jean de La Fontaine.
Alors, ce qui est très intéressant chez La Fontaine, c'est que évidemment c'est l'écrivain immense, le poète qu'on connaît, etc. Mais c'est que il a d'abord appris à lire la nature en se promenant dans la nature, parce que son père était maître des eaux et forêts, lui-même deviendra maître des eaux et forêts, c'est un promeneur. Non, et la lecture. C'est pas la lecture seulement dans les livres, c'est aussi la lecture du monde. Et il y a cette phrase formidable qui débute la Bibliothèque infinie de Borges, qui est une phrase absolument admirable, qui dit « L'univers, certains disent la bibliothèque ». Et on pourrait dire l'inverse. Et ce que j'aime, moi je suis un vulgarisateur passionné maintenant, parce que j'ai pas, comme on dit, de formation scientifique, mais j'apprends à lire la nature. Je commence, par exemple, le premier livre de vulgarisation que j'ai écrit, c'était un livre sur le Gulf Stream. Et maintenant, je sais comment marche, comment s'articule l'océan et l'atmosphère, ces relations. Et donc, je sais lire, alors qu'avant, je ne savais pas lire. Quand je navigue, je sais à quel endroit va arriver une risée et comment ça va interagir avec le courant. Donc j'apprends à lire une surface que je ne connaissais pas. C'est la même chose en musique. Je ne savais pas lire une partition, je commence à savoir. Donc partout nous sommes sur des surfaces face auxquelles nous sommes aveugles. Donc il faut apprendre à ouvrir les yeux. C'est ça une vie, apprendre à ouvrir les yeux avant de les fermer.
Bon, en tout cas, grâce à vous et à tous vos livres, Eric Orsenna, on a pu ouvrir les yeux sur des multiples sujets. Le dernier, donc, c'est La Fontaine, une école buissonnière, c'est publié chez Stock. C'était l'an dernier. Vous travaillez sur quoi là-bas ?
Sur les villes, parce que partout où j'ai été dans les voyages pour la mondialisation, j'ai rencontré des villes. Puisqu'il y a 50 villes d'aujourd'hui qui dépassent 10 millions d'habitants. Et que plus d'un humain sur deux, aujourd'hui, vie en ville. Bientôt, ça sera 2 sur 3. Donc, qu'est-ce que c'est que ce désir de ville ? Ce désir de ville. Et j'ai repris cette merveilleuse phrase d'Italo Calvino dans Les villes invisibles, où il dit, vous savez, il arrive au voyageur qui a erré longtemps dans des étendues sauvages, un désir de ville. Admirable livre d'Italo Calvino. Il faut lire Les villes invisibles. Ce dialogue imaginaire entre l'empereur de Chine, Kublai Khan, et Marco Polo. Et il dit, et l'empereur de Chine sait bien que très souvent Marco Polo ment. Il parle de villes qu'il n'a jamais rencontrées. C'est ça. Quel est le mentir vrai dont parlait Aragon ?
Aragon, tiens, ce sera justement la dernière nouvelle que l'on entendra. C'est Claude Riche qui lisait Le Mouton, Louis Aragon. Voilà, on se retrouve en toute fin de nuit, mais vous écoutez donc Françoise Rosay et puis la compagnie Renaud Barrault et donc Claude Riche dans...
Le phrasé de Rosay. Le phrasé.
Écoutez, soyez attentifs et puis écoutez bien Eric Orsenna.